Le théâtre, le théâtre. Voulez-vous savoir ce que c'est que le théâtre?
Le théâtre, c'est un art du moment. On est en rapport direct avec l'esprit.
C'est tout vrai, la
pièce détachée. Il faut que le théâtre présente une autre forme, une autre manière de vivre.
Sur Radio Campus Paris.
Le théâtre est pour tout le monde, pour vous comme pour les autres. Faut pas être exclusif.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Pièces détachées, l'émission consacrée aux arts vivants en Île-de-France, sur Radio Campus Paris. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Sarah Gerber, metteuse en scène et comédienne, cofondatrice du collectif TDM, pour parler d'Ophélie hors champ jusqu'au 27 mai au Théâtre de Belleville. En chronique, on vous parlera des locaux dans le cadre du festival BIAM, des Natasha Belova et Tita Iacobelli, jusqu'au Vendôme, des rencontres chorégraphiques de Seine-Saint-Denis, et en particulier des danses fragiles de Renato Cruz, de l'Hôtel du Libre-Échange de Fedot, une mise en scène de Stanislas Nordi à l'Odéon jusqu'au 13 juin. Et on terminera avec Journée des noces chez les Cro-Magnon de Wajdi Mouawad au Théâtre de la Colline jusqu'au 22 juin. Mais commençons par l'interview. Merci d'être avec nous, Sarah Gerber, pour parler d'Ophélie hors champ.
Merci à vous.
Donc, Ophélie hors champ, c'est le titre de votre dernière création que vous jouez jusqu'au 27 mai au Théâtre de Belleville. Dans cette pièce, Ophélie sort du silence pour reprendre possession de sa voix, de son corps, de son histoire. Et on se retrouve entre théâtre contemporain et opéra. Vous proposez une relecture féministe d'un mythe théâtral figé de la tragédie masculine.
Oui,
effectivement. Donc, Ophélie hors champ remet en lumière un personnage secondaire de Shakespeare. Qu'est-ce qui vous a poussé à donner la parole à Ophélie aujourd'hui?
Alors, il y a deux réponses à cette question. Il y a une première réponse qui est d'ordre un peu hasardeuse. C'est-à-dire mm-hmm. c'est grâce à l'ère d'Ophélie, à la rencontre de l'ère d'Ophélie dans le cadre d'un chantier de création de mise en scène d'opéra à l'Opéra National de Nancy, coordonné par Jean-Yves Ruff, où j'ai découvert l'opéra et l'ère d'Ophélie d'Ambroise Thomas. Et à partir de ce point de départ, qui m'a amené à creuser un peu plus loin dans la question de ce personnage féminin et de façon plus large sur la réhabilitation de personnages féminins. Enfin, j'ai toujours travaillé autour de personnages historiques assez massifs, de personnages historiques masculins. Il m'a toujours beaucoup intéressé d'aller disséquer, décortiquer ce qui se jouait, ce qui se travaillait, ce qui se bricolait entre les personnages, dans ce qui n'était pas écrit, comment on pouvait faire résonner des personnages mythiques et leur redonner du corps et une parole politique, une parole contemporaine. Et la rencontre de ce personnage-là et la rencontre de cet art-là qu'est l'opéra, et différentes choses de mon parcours personnel m'ont amené à m'orienter vers l'objectif de poursuivre ce travail de dissection de personnages classiques, antiques, ou en tout cas un peu des tubes du théâtre, dans une orientation de personnages féminins. C'est-à-dire que j'aurais tendance à dire, un peu comme Alice Coffin, quand elle a dit qu'à partir de maintenant, elle ne lirait plus que des autrices, qu'elle s'est pris une volée de bois vert, comme dirait ma mère. C'est vrai que je pense qu'à partir de ce travail-là, ça va être pour moi le début d'une autre période de travail dramaturgique et militante dans la constitution et dans la dissection des personnages antiques. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, mais avec l'objectif de... Est-ce que c'est réhabilité? Est-ce que c'est réinterprété? Ou... En fait, juste tout simplement présenter des personnages féminins. Et j'ai presque envie de dire, je le ferai tant que... Enfin, quand vous me demandiez qu'est-ce qui vous a motivé à le faire, j'ai presque envie de dire, quand on se posera plus la question de pourquoi traiter particulièrement ce personnage-là plutôt qu'un autre, peut-être que je ferai autre chose. Mais pour le moment, j'en ai pas fini avec la réhabilitation des personnages féminins.
Et Sarah Gerber, quelle était votre première impression en lisant les personnages, en relisant les personnages d'Ophélie dans les textes de Shakespeare?
Vous voulez dire à partir du moment où on a commencé à travailler?
Oui.
Ou un
non,
moment
quand, la première fois que
ah,
vous
la
avez
toute première
lu,
fois.
Oui, les textes de Shakespeare, qu'est-ce que vous avez pensé du personnage d'Ophélie? Est-ce que vous vous rappelez vos premières impressions face à ces personnages?
J'étais assez démunie, je crois. J'étais assez démunie parce que je comprenais pas. Je comprenais pas, en fait. Déjà, j'avais pas du tout. Je fais partie de ces féministes qui se sont construites un peu sur le tard. Donc, je comprenais pas. Il y avait une intuition qui me faisait me dire qu'il y avait un truc qui clochait dans sa présence, dans le fait qu'elle hante la pièce du début à la fin, alors qu'en fait, finalement, si on regarde de façon pragmatique dans la pièce de Shakespeare, elle est présente cinq scènes sur les 19 de Shakespeare. Présente veut pas dire parlante, hein, entendons-nous, elle est là, quoi. Bon, dans l'opéra, elle est un peu mieux servie, même si, en règle générale, c'est quand même plutôt pour se languir ou pour s'éplorer, mais j'étais interpellée, en fait, par la place qu'on lui donnait dans son absence. Comment on utilisait son absence comme une sorte de prétexte et comment on traitait comment on mettait en lien le fait qu'elle soit parce que dans une position de peut-être de rejet, je sais pas, en tout cas que instantanément ça voulait dire qu'elle était folle. Et que du coup, directement, elle passait de la case de absente quand elle est là, elle est folle. Donc, bon. Et moi, j'ai grandi comme plein d'étudiantes d'école de théâtre avec cette vision d'une Ophélie, voilà, la robe blanche, les pieds nus, les couronnes de fleurs, tout cet univers-là. Auquel j'ai ni adhéré ni pas adhéré, hein, d'ailleurs, c'était juste comme ça, c'était Ophélie, c'était comme ça, la belle morte, quoi.
Et à propos de votre image d'Ophélie, donc Ophélie, votre Ophélie choisit le feu, alors que celle de Shakespeare glisse vers l'eau. Mm-hmm. Pourquoi cette inversion? Pourquoi vous avez choisi cette inversion? Même si on le comprend très bien, le feu est souvent associé à la colère, à la destruction, mais aussi à la purification, à la renaissance. Quelle lecture symbolique souhaitez-vous que les spectateurs fassent de votre choix, de ce choix?
Alors en fait, c'est une question intéressante à laquelle j'ai pas mal réfléchi depuis que vous l'avez évoqué. Alors moi, je l'ai pas forcément vu comme quelque chose d'opposé. C'est-à-dire, je me suis pas vraiment orientée vers le feu contre l'eau. Il y avait une, pour moi, ça s'est fait de façon assez intuitive et de façon. En fait, l'eau, elle est présente. Mm-hmm. Pour moi, elle est présente. Elle est présente dès le début. Mm-hmm. Et la mort d'Ophélie par l'eau, par la noyade, qu'elle soit accidentelle ou pas, elle est présente dès le départ, que ça soit chez Shakespeare ou dans l'ère de Berlioz qui ouvre le spectacle. Le feu, pour moi, c'est un moyen de, pour, disons de, c'est un peu après moi le déluge. Alors c'est un peu paradoxal en plus de dire déluge quand on parle de feu, mais il y a un peu cette idée de, pour moi, il y a un moment dans la pièce, plus ou moins la moitié du spectacle, où il y a un moment dont j'ai pas envie de parler parce que ce serait dommage de le raconter avant que les gens ne le voient, mais pour moi il y a un moment où Ophélie elle bascule, où elle comprend en fait qu'elle pourra pas s'en sortir, en fait elle pourra pas s'en sortir, peut-être pas cette fois. En fait, peut-être pas cette fois-là. Moi, je suis partie. J'aime beaucoup travailler à partir de sources croisées, que ça soit des textes théoriques, des textes philosophiques, des inspirations musicales de différentes sortes, cinématographiques, esthétiques, tout ça, et sociétaux beaucoup, notamment depuis vraiment ce virage que je suis en train de prendre dans mon travail artistique. Et je suis partie notamment d'une phrase qui a été dite par je sais plus, c'était un médecin ou quelqu'un qui disait il faut en moyenne sept allers-retours à une femme pour partir définitivement. Dans le cas des violences conjugales, en l'occurrence. Et cette phrase m'a pas mal habitée pendant tout le temps de la création, parce que c'est ça aussi qui a motorisé cette histoire de boucle. C'est-à-dire que j'aime l'idée qu'on arrive et on rencontre cette Ophélie et on ne sait pas où elle en est, en fait. On ne sait pas où elle en est. On ne sait pas si c'est sa première tentative de départ, sa deuxième tentative de départ, sa troisième. On ne sait pas. Et en fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est ce moment de bascule où elle va dire... où elle va vivre le « ok, bah, ce ne sera pas pour cette fois. Bah, dans ce cas-là, après moi le déluge et vous irez avec moi. » Et Ophélie devient Ophélie pyromane.
Et à propos de cette motif de feu, comment vous avez travaillé la scénographie pour le rendre sur scène?
Alors, la scénographie, elle a été pensée par Ninon Le Chevalier, qui est une scénographe et costumière absolument brillante, et qui a beaucoup recherché la question de la lumière, des ombres, en partenariat évidemment avec Loïc Varidel, qui a fait tout le travail de son sur les bandes sonores, sur les pistes sonores et sur la création lumière. Et la scénographie, elle a été pensée comme un espace modulable d'une fête un peu étrange, en tout cas d'une fête passée, de débris, de quelque chose comme si on était sur les ruines du... Bon, alors on peut aller chercher un peu loin sur les ruines du royaume. En tout cas, là c'était l'idée de, voilà, d'avoir les restes d'une fête qui allait donner vie à la suite du spectacle.
Colora di stanco, dorato tramonto, le torri di guardia, la piccola Ophelia vestita di bianco, va incontro alla notte, dolcissima e scalza, nelle sue mani ghirlande di fiori e nei suoi capelli riflessi di sogni, nei suoi pensieri mille colori di vita e di morte, di veglia e di sonno. Ophelia, che cosa senti? Quando la voce dagli spalti ti annuncia che è l'ora già e il giorno piano muore. Ophelia, che vedi dentro al verde dell'acqua del fossato, nei guizzi che la trota fa cambiando di colore. Perché hai indossato la veste più pura, perché hai disciolto i tuoi biondi capelli, corri allo sposo, hai forse paura che li trovasse non lunghi, non belli. Quali parole son sulle tue labbra, chi fu il poeta o quale poesia, lo sa il falcone nei suoi larghi cerchi, io lo so solo la tua dolce pazzia. Ophelia, la seta e le ombre nere ti avvolgono leggere, ma dormi ormai e sentirai cadenze di liuto. Ophelia, non puoi sapere quante vicende ha visto il mondo, ma forse sai e lo dirai con magiche parole. Ophelia, le tue parole al vento perdono nel tempo, ma chi vorrà le troverà in tintinni corrosi. Ophelia, la 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 la.
Là, c'est terminé. Premier morceau de la soirée, Ophelia de l'artiste Francesco Guccini. Nous sommes toujours en compagnie de Sarah Gerber pour parler d'Ophélie hors champ jusqu'au 27 mai au Théâtre de Belleville.
Sarah, donc votre pièce navigue donc entre opéra et théâtre, entre texte classique et forme contemporaine. Comment s'est construite cette hybridation? Et est-ce que c'était une nécessité dramaturgique ou un choix esthétique?
Ah, vaste question.
Concernant l'hybridation,
Question. Alors, l'hybridation, elle est née de ma rencontre avec l'opéra, très clairement, où j'ai vraiment été littéralement percutée par la puissance du chant, par la puissance émotionnelle que peut créer le chant lyrique. Et en même temps, je viens d'un parcours qui... dans lequel j'ai toujours creusé et navigué, j'ai toujours travaillé en musique, pas en lyrique, mais j'ai toujours travaillé en musique et j'ai toujours été très attirée par le fait de disséquer et les œuvres dramaturgiques et faire entrer en collision les différents arts vivants, que ça soit la danse, que ça soit le théâtre, que ça soit la construction d'images d'esthétique forte au niveau de la scénographie ou au niveau du son, de la lumière. Et donc cette hybridation là, elle est venue de façon assez naturelle au sens où ça fait partie intrinsèque de mon travail pluridisciplinaire depuis que j'ai commencé à travailler. Ça s'est orchestré, si je peux dire, différemment dans ce contexte-là, puisque là, on a, contrairement à ce que je faisais avant, où j'ai toujours travaillé en musique, mais sur le versant post-rock expérimental, musique improvisée, live, avec un musicien fantastique qui s'appelle Jean Gros, qui est un magicien de la musique. Ça a toujours été pour moi très très présent dans la construction de scènes muettes notamment. C'était un moyen aussi pour moi de raconter ce qu'on voit sans texte et que le texte soit une tranche du spectacle, mais qui soit pas le seul dépositaire de tout ce qui se voit, de tout ce qui se ressent, et que la musique prenne en charge d'une certaine manière, même si évidemment c'est pas la totalité, mais prenne en charge une certaine partie de l'émotion presque pure, j'ai envie de dire, si tant est que ça existe, au sens où, et c'est notamment moi ce qui m'a vraiment percuté avec l'opéra, c'est-à-dire que dans le chant lyrique, on n'a pas le choix. On peut pas ne pas écouter. On peut pas choisir de penser à autre chose. Même si... Ou on part. Ça, c'est une possibilité. Mais il y a vraiment quelque chose qui vient vous chercher au cœur de... émotion, répulsion, peu importe. Mais en tout cas, ça fait quelque chose. On ne peut pas rester insensible. Et pour moi, c'est ça qui a vraiment motorisé dramaturgiquement l'utilisation du chant lyrique dans cette pièce-là.
Ok. Donc,
c'est pas très clair.
Bah justement, on va continuer à parler, on va continuer à étayer cette question de l'usage de cette vocalité lyrique parce que quand même elle interroge, parce que justement elle est excessive. Donc l'histoire de l'opéra, elle est peuplée de drames amoureux, de drames sociaux, de drames politiques. Est-ce que vous pouvez donc un peu développer sur l'usage de la vocalité, cet usage de la vocalité, et plus spécifiquement développer votre point de vue quand vous vous interrogez sur, et là je vais citer le dossier de production, sur ce qui semble être un renoncement esthétique à la violence subie, un champ des disparitions. Mmh. Et c'est un peu ce hiatus entre... Quel usage faites-vous de cet excès dont vous parlez, en fait ?
Pour moi, ce qui m'est apparu au fur et à mesure du travail, puisque ce n'était pas un projet dramaturgique initialement, puisque c'est quelque chose qui s'est construit au fur et à mesure, comme la plupart du travail collectif que je coordonne depuis un certain nombre d'années maintenant, ça s'est fait de façon intuitive, où j'ai découvert le fait que les airs, le chant, de ma petite connaissance de l'opéra, puisque je suis encore novice dans le domaine, mais en tout cas de ce que j'ai constaté, les grands airs, les grands élans, que ça soit des airs amoureux, que ça soit des airs de colère ou de furie ou même de folie, pour moi, je les lis à des endroits de la solitude, du monologue intérieur, en fait, d'une certaine manière, et comme une sorte de mise en voix de quelque chose qui peut pas être mis en mots, qui peut pas être parlé. C'est tellement fort, c'est tellement intense, c'est tellement indicible, ou je sais pas, que ça passe par la voix chantée parce que ça peut pas se parler. C'est pas, les mots sont pas assez forts, par exemple. Je pense par exemple un des moments du spectacle où Gertrude a un air qui est l'air de Gertrude, qui est un air un des airs connus de l'opéra d'Ambroise Thomas. Et initialement, c'est un air qui est adressé à Ophélie. Et après, on en fait ce qu'on en veut, mais théoriquement, c'est un air qui lui est adressé, ou du moins l'arioso commence par une adresse vers Ophélie. Et ce qui m'a intéressé, ça a été au contraire de faire sortir Ophélie. Et que Gertrude utilise cette voix-là, non pas comme une voix adressée vers quelqu'un pour faire passer un message de façon opérationnelle, mais comme une adresse à elle-même, intérieure, comme quand on... Oui, quand on trouve pas les mots et que ce qui s'impose, ça va être le corps pour certaines personnes, ça va être le mouvement, ça va être le j'en sais rien, la course. Et là, ce qui s'impose à elle, c'est la voix qui sort et qui est effectivement excessive, qui est au-delà de tout ce qu'on de tout ce que on ferait dans le quotidien. Enfin, c'est hors cadre. Et moi, c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est comment on utilise cette voix-là pour aller au-delà de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, et pour faire sortir autre chose des personnages que ce qu'on peut raconter d'eux. Je ne sais pas si c'est plus clair.
Si, si. Du coup, en fait, cette vocalité lyrique, vous l'utilisez un peu comme on l'utilise à l'opéra, c'est-à-dire un au-delà des mots. Enfin, c'est ouais. ça où pour moi, c'était pas extrêmement clair pour moi cet usage de la voix. Finalement, vous utilisez ça comme ce moteur-là d'un impossible à dire dans la parole. Très bien. Donc toujours au sujet de l'usage de la voix, vous dites qu'elle se déploie dans un va-et-vient entre le langage quotidien et l'excès de la vocalité lyrique. Comment avez-vous travaillé justement ces notions de transition, de passage et de mutation entre le jeu théâtral et surtout à l'égard des chanteuses du coup ?
Ah, ça a été un très très gros sujet. Ça a été même, pour être tout à fait honnête, un point d'inquiétude pour moi, parce que je me disais Non seulement je débarque dans l'opéra, donc techniquement j'ai peu de connaissances des contingences techniques, musicales, de ce qu'implique le chant lyrique, et en plus j'ambitionne j'arrive avec mes valises de théâtreuse en disant on va jouer. Et ça s'est fait progressivement. Ça s'est fait de façon finalement aujourd'hui rétrospectivement hasardeuse, mais petit à petit. C'est-à-dire que la dramaturgie, elle s'est vraiment écrite dans la répétition, autour de ces airs. Par exemple, on a un moment où on a un grand duo entre Hamlet et Ophélie, qui est un duo qui est sublime dans l'opéra. Il se trouve que moi, faisant le choix de travailler avec un acteur et une chanteuse actrice, s'est posé cette question de la voix parlée et de la voix chantée. Et en fait, ça s'est transformé. Petit à petit, il y a eu des propositions et on entend son texte à lui qui se parle. On en dégage quelques bribes, mais en fait, c'est elle qui prend en charge les deux parties. Comme si c'était elle qui chorégraphiait et qui écrivait ce qu'elle aurait voulu qu'il lui dise, par exemple, ou ce qu'elle n'aurait pas voulu qu'il lui dise, et qui fait qu'elle, elle navigue là-dedans.
Notre deuxième morceau de la soirée, Love is the Tune, des piles de Bill Fay. Nous sommes toujours en compagnie de Sarah Gerbert, arrête-toi de rigoler, pour parler d'Ophélie Orchamps jusqu'au 27 mai au Théâtre de Belleville. Alors, moi j'ai une dernière question pour vous, Sarah, avant de vous laisser, parce que vous jouez ce soir au théâtre. Donc, je voudrais savoir, est-ce que vous avez le sentiment que ces mélanges de formes artistiques permet de toucher un public plus large ou différent ?
Oui, par définition.
Parce que présenter de l'opéra-théâtre dans un théâtre, forcément, ça ramène d'autres publics. Travailler sur une théâtralité, une théâtralisation du jeu théâtral sur une scène d'opéra comme on l'a fait à la création à l'Opéra d'Avignon, évidemment ça connecte avec d'autres personnes. Donc si tu veux, c'est un peu des strates, c'est-à-dire qu'il y a la collision entre l'opéra et le théâtre, il y a la collision entre le jeu théâtral qui vient entrer en collision avec le chant et les publics qui viennent se mélanger. Bon, c'est un vœu pieux, on a tous l'ambition de mobiliser des publics qui ne sont pas habitués ou bien qui sont éloignés du monde de la culture, etc. Mais là, en tout cas, l'idée, c'est d'utiliser le transdisciplinaire pour faire bouger les spectateurs, les spectatrices et faire bouger l'esthétique, même dans l'expérience. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment que ça soit une expérience pour nous, sur scène, pour les spectateurs et spectatrices, et qu'on puisse utiliser ça comme un moyen d'activisme, en fait, d'activisme artistique, d'activisme aussi politique, de représenter des personnages, de leur donner une autre voix, et d'utiliser les médias qui sont à notre disposition, et de sortir l'art lyrique de l'opéra, et sortir le théâtre du théâtre, si je peux dire, et de sortir nos représentations des personnages de ces représentations-là.
Donc de tout casser.
Ouais, genre de ça. Effectivement.
Merci beaucoup, Sarah Gerbert, d'être été avec nous ce soir. Nous, on vous souhaite...
Déjà, une bonne représentation ce soir.
Je vais retrouver mon équipe qui est en train de monter le décor, la scénographie, et je vais les retrouver vite avant le début de la pièce. Merci beaucoup.
Merci. Hâte de voir les prochains personnages que vous allez nous sortir.
On a déjà plein d'idées. Ouh là là, on a déjà plein d'idées, mais on n'en parle pas. Pas parce qu'on n'est pas... C'est pas tant un truc de superstition, mais c'est plus que... Il n'est pas dit que je ne change pas d'avis d'ici là.
Okay.
Donc, bon, on verra. Merci beaucoup.
Que vienne la nuit, que vienne l'heure où le soleil gémit. Que vienne la nuit et que demeure les sages endormis. Laissez-la nous gagner, laissez-la nous marquer, laissez-la l'emporter, les cendres dispersées. Laissez-la nous gagner, laissez-la nous marquer, laissez-la l'emporter, les cendres dispersées. Tu me dis j'ai peur, la décennie à l'odeur de l'incendie. À toi qui ouvre ton cœur cette nuit, je te la souhaite infinie. Laissez-la nous gagner, laissez-la nous marquer, laissez-la l'emporter, les cendres dispersées. Laissez-la nous gagner, laissez-la nous marquer, laissez-la l'emporter, les cendres dispersées. Sous nos tables de nuit sont rangés des litres d'essence. Pyromane de l'ennui, il est temps de cramer le silence. Laissez-la nous gagner, laissez-la nous marquer, laissez-la l'emporter, les cendres dispersées. Laissez-la nous gagner, laissez-la nous marquer, laissez-la l'emporter, les cendres dispersées. Quand retentit minuit, brûlons nos lits et entrons dans la danse. Génération qu'on oublie, il est temps de sortir de l'errance. Laissez-la nous gagner, laissez-la nous marquer, laissez-la l'emporter, les cendres dispersées. Laissez-la cette nuit, notre vision est grande. Sens-tu venir la folie? Elle nous saisit et l'ancien monde tremble. Laissez-la nous gagner, laissez-la nous marquer. Laissez-la l'emporter, les cendres dispersées. Laissez-la nous gagner, laissez-la nous marquer. Laissez-la l'emporter, les cendres dispersées. Laissez-la nous gagner, laissez-la nous marquer. Laissez-la l'emporter, les cendres dispersées. Laissez-la nous gagner, laissez-la nous marquer. Laissez-la l'emporter. Que vienne l'heure où le soleil gémit, que vienne la nuit et que demeurent les sages endormis.
Et maintenant, c'est le moment des chroniques. Mais avant, troisième morceau de la soirée, c'était Pyromane de Clara Izet.
Il s'agit d'une histoire, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire.
Ce soir, on va vous parler du festival BIAM. On va vous parler aussi des rencontres chorégraphiques internationales de Saint-Saint-Denis, de l'Hôtel du Libre-Échange, une mise en scène de Stanislas Nord et à l'Odéon jusqu'au 13 juin, des journées de noces chez les Cro-Magnon au Théâtre de la Colline jusqu'au 22 juin. On commence par Loco, de Natasha Belova et Tita Iacobelli, donc joué dans le cadre du festival BIAM, du 16 au 18 mai au Théâtre Montfort et les 22 mai au Théâtre Antoine Vitez, dans le cadre donc du festival. Alice, on t'écoute.
Oui, c'était dans une... Le spectacle a été joué dans une cabane, en bois. On ne connaissait pas cette salle au Montfort. Alors, le journal d'un fou, c'est l'adaptation libre de la nouvelle de Nicolas Gogol, de l'auteur russe, le journal d'un fou. Ils l'ont appelé Loco, fou en espagnol. Et ce titre est parlant. C'est l'histoire d'un employé de bureau ordinaire. La réalité l'enferme dans un rôle qui ne lui convient pas. Les conventions sociales ne laissent aucune issue de secours à sa destinée. Il ne peut épouser non plus la femme qu'il aime, compte tenu de son statut social. Les choses ont-elles réellement changé aujourd'hui? Je ne sais pas. Son travail de bureaucrate semble carcéral. La hiérarchie écrase les petites gens. Rien n'a changé. C'est pourtant un texte de 1834, je crois. Enfin, je ne suis pas historienne, mais...
Ah bah, c'est facile comme ça de m'envoyer cette question sans préparation.
Il y a du jeu parti dans derrière.
On verra plus tard. Sa réalité ne le laisse pas exister en tant qu'individu à part entière et sa folie va s'emparer de lui et jouer le plus beau rôle. Unique alternative à cette rigidité sans faille. D'ailleurs, l'univers plastique est très inventif ici. Le personnage principal appelé Propritchine, je le dis bien, est à l'image de son environnement bureaucratique.
Ce qui est un nom construit sur le mot carrière.
Ah, d'accord. Et donc ça laisse peu de place à la créativité. Cette marionnette, elle était faite, enfin sa peau, elle avait la couleur terne des papiers qu'il trie à longueur de journée. C'était vraiment bien fait. Ses idées les plus folles prennent l'apparence du fantastique avec plein de trouvailles. Son environnement se transforme et c'est sa revanche sur le réel, si peu aimable avec les petites gens. Le choix de donner le premier rôle à une marionnette comme personnage principal, je l'ai trouvé intéressant. Car au fond, l'essence même de la marionnette offre toutes les ressources dans l'art de ne pas se faire manipuler. Pensez à l'esprit très punk de Punchinella en Italie. Tu connais Camilla Punchinella?
Oui, oui, mais il n'est pas punk. Hein.
Oh, il a un esprit très rebelle quand même.
Okay.
Pensez à Punch en Angleterre et son cousin guignol français plein de verve avant d'être censuré par le patronat au moment de la révolte des canuts à Lyon. Ces petits monstres de chiffon ont l'art de vaincre la mort et le diable en personne. Mais revenons à notre sujet principal. Lui aussi une marionnette, manipulée par deux marionnettistes épatantes, somme toute. Hein. Elle s'appelait Natasha Belova et Tita Iacobelli. Enfin, lui, ce personnage, ne trouve d'autre issue à sa réalité sordide qu'en perdant la raison. C'est toi, Julien, ce qui t'a glacé, non?
Ah oui, moi, mais de toute façon, le journal d'un fou de Gogol, moi, me glace à chaque fois que je le vois. Parce que ce qui est très fort dans le texte de Gogol, c'est cette impression que ce qu'il vit, sa déformation de la réalité, on peut tous être en train de la vivre. Moi, je trouve qu'il écrit ce texte avec une force. On se projette totalement dedans, et là encore. Alors, Moi, j'ai apprécié ce spectacle. Déjà, premier bon point, elles sont belges. C'est déjà tout de suite quelque chose qui vaut le coup.
Je crois qu'il y en a une qui est chilienne.
Ah bon, bon. En tout cas, le spectacle est clairement adapté à la Belgique.
Elles ne sont pas françaises, ça c'est un bon point.
En tout cas,
oui,
c'est la Belgique puisqu'on parle de bourgmestre.
Un souffle international.
Alors, parfois, moi, j'ai trouvé quelques petites légèretés. Mais il y a quand même un spectacle qui est d'une très 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 grande beauté. Leurs poissons particuliers sont particulièrement réussis.
Ah oui, les marionnettes poissons qui sortent d'un lit.
Voilà, il y a une inventivité, tu l'as dit. Il y a quelque chose de très onirique pour nous faire accompagner Propriétine dans la folie. Franchement, il y a vraiment quelque chose de très agréable. On se sent, malgré le côté oppressant de cette pièce, on se sent accompagné, bercé dans ce rêve. Il y a vraiment quelque chose de très réussi et qui est effectivement, tu l'as dit, mis en valeur par cette salle plutôt petite qui fait qu'on se sent complètement embarqué. Et ça vaut vraiment le coup. Alors, c'est plus possible de le voir au Montfort puisque ça se terminait hier. Mais il me semble que ça repasse.
Vous pouvez le voir les 22 mai au théâtre Antoine Vitez.
Oui, on vous le recommande. Hein.
Voilà, ça vaut le coup, aller à Ivry-sur-Seine.
Très bien. Merci beaucoup Alice et Julien pour cette chronique. On poursuit avec l'hôtel du libre-échange, des Fédos, une mise en scène des Stanislas Nordi à l'Odéon jusqu'au 13 juin. Donc Thomas, tu étais avec Julien. On t'écoute.
Ouais, et les critiques ne sont pas bonnes, hein, il faut l'avouer. Et sans doute parce qu'on attendait de Stanislas Nordi qu'il ne dérange pas, qu'il serve Fedot tel qu'on le croit figé dans la tradition molle du vaudeville, ce petit genre qui rassure, distrait, anesthésie. Mais Nordi n'est pas un serviteur docile, il est metteur en scène au sens le plus noble. En s'emparant de l'hôtel du libre-échange, il ne se contente pas d'exécuter, il propose. Il dérange parce qu'il déjoue les attentes, il prend le texte au mot, le déshabille, l'écoute autrement. Fedot a vieilli, il serait vain de le nier. Comment rire aujourd'hui de cette misogynie en contrepoint, de cet espoir répété d'être enfin débarrassé de sa femme? Comment ne pas être frappé par la brutalité ordinaire de ces personnages, par leurs bêtises bruyantes et leur libido triste? Nordi ne cherche pas à faire oublier cela, hein, il le souligne. Il exhibe la fadeur féroce de ses vies et révèle que si nous rions encore, c'est sans doute de nous-mêmes, inconsciemment. Un rire d'angoisse presque. Sinon, rire de ces bourgeois ridicules, c'est souvent s'exonérer d'en être. Hein. Or, Nordi nous tend un miroir et son reflet n'est pas flatteur. Ce n'est pas la première fois qu'il s'aventure chez Fedot. Il avait déjà monté la puce à l'oreille en dissolvant la comédie dans une matière sonore et visuelle à la lisière du rêve. On y croisait déjà des insectes, petites figures de la paranoïa conjugale. Ici, ce sont les autruches qui prennent le relais. Dans les costumes, les poses, dans ce portrait monumental qui surplombe la scène, elles sont partout. L'autruche, cet oiseau qui court sans voler, qui enfouit sa tête dans le sable, croyant ainsi échapper au danger. Quelle métaphore plus juste de notre posture de spectateur. Il y a dans cette mise en scène un goût affirmé pour la farce, mais une farce acide, tendue, dérangeante. Une farce qui ne nous absout pas, mais nous expose. Beaucoup viennent à Fedot pour oublier. Nordi les force à se souvenir. Car s'il y a du cabaret, du musical, du plumesque, ce n'est pas pour flatter. Le jeu est volontairement outré, caricature à la Maillan, mais étiré, hurlé jusqu'à la rupture. Les murs sont des faisceaux lumineux, les chambres n'existe plus que par un espace imaginaire, les acteurs se croisent sans se voir, le réalisme est aboli, les conventions détruites. Il ne reste que la parole et cette parole devient partition. Voilà qui ne peut que décevoir les esprits paresseux. On pourrait écouter cet hôtel du libre-échange les yeux fermés. Ce ne serait plus une pièce, ce serait une sonate. On y entend des glissements, des échos, des effets de langue où l'époux devient parasite. Une lecture lacanienne presque, où les mots nous devancent, nous embrouillent, nous exposent, poétisent. Le cocu n'est plus ridicule, il est tragique. Le mari adultérin ne fait plus rire, il s'étouffe dans son désir impuissant. Alors les autruches rêvent de fuir, mais Nordi les empêche de baisser la tête. Il les force à regarder. s'éclater. Ce spectacle ne cherche pas à divertir, il cherche à secouer. Il nous dit que l'échappatoire du rire bourgeois n'est plus possible, que le rire est une arme, mais qu'il faut savoir où elle pointe. Nordet, en cela, fait du politique autrement. Il convoque Fedot, non pas pour s'y complaire, mais pour l'ausculter. Et ce qu'il trouve dans les replis grinçants du texte, c'est une parole de notre temps désaccordée, inquiète, burlesque, désespérée. Ce théâtre-là nous rend éveillés, non seulement parce qu'il nous oblige à penser, mais aussi parce qu'il nous interpelle à pleine voix. À l'ancienne, sans micro, les acteurs projettent, gueulent, désincarnent. Et cette énergie nous secoue plus sûrement que bien des artifices techniques. Il fallait du courage, moi je le dis, pour faire face. Il fallait ne pas avoir peur de décevoir les amateurs de Porte qui claque. Il fallait aussi une troupe capable de suivre cette métamorphose. Et les autres s'y abandonnent avec une générosité rare. Ce n'est plus du boulevard, c'est une fable féroce et féconde. Et si certains restent à la porte de cette étrange auberge, tant pis. Les autres, eux, auront vécu un vrai moment de théâtre, une nuit éclairée par la lucide absurdité de notre monde.
Merci Thomas.
Ouais.
Donc Julien, et toi, tu en
penses
quoi?
Moi, je fais partie des esprits paresseux.
D'accord.
Restés à la porte. Alors.
Ah oui.
Mais à une porte qu'on passe, qu'on repasse, finalement, on est dedans. J'ai eu l'impression de la même impression qu'on a quand paresseusement on se pose dans un canapé devant la télé, qu'on tombe sur une comédie, alors pas une comédie insupportable avec Christian Clavier, non. Je sais pas, quelque chose de l'ordre du Bienvenue chez les Ch'tis, quelque chose de plaisant, c'est amusant. Effectivement, les acteurs sont très justes, et là on reconnaît effectivement une vraie capacité à diriger les acteurs, mais il y a un surjeu qui est lourdingue, qui vient probablement d'un texte dont on peut se demander s'il vaut encore le coup, s'il a encore quelque chose à apporter à notre époque. Moi, j'ai vraiment eu par moments l'impression, alors, autre analogie de télé, je me suis senti par moments comme quand tout gamin, je me retrouvais devant ce programme télé absolument insupportable qui était Pas de pitié pour les croissants, avec ces amants ridicules, mais ridicules jusqu'à l'exagération, où on a... voilà, mais...
Non mais justement, si c'est ça qu'il vient chercher, en fait...
Ah ben peut-être, mais là, en l'occurrence, moi je n'y ai pas vu du tout de réflexion sur l'époque. Je me suis dit, ce texte est fatigué. Mais voilà, mais encore une fois, il y a un savoir-faire, il y a un jeu, il y a... Mais...
Mais du coup, il utilise le savoir-faire pour justement aller dénoncer quelque chose, justement
moi,
aller pousser au ridicule.
Non, j'ai juste moi vu une pièce finalement assez facilement oubliable.
Oh. Pauvre Stanislas.
Merci Julien, merci Thomas.
Ah oui, Stanislas d'ailleurs en double dans la pièce, sur scène, puisqu'on parle du collège Stanislas et à la mise en scène.
D'accord.
Merci beaucoup Thomas et Julien. Donc vous avez le temps de vous faire votre avis parce que vous avez jusqu'au 13 juin pour voir la pièce au Théâtre de l'Odéon. Et on continue avec une journée des noces chez les Cro-Magnons des Wajdi Mouawad jusqu'au 22 juin au Théâtre de la Colline. Donc j'étais avec Guillaume hier et Guigui, on t'écoute. Tu en pensé quoi?
Ah bah alors oui, bon, qu'est-ce que j'en ai pensé? Journée de noces, juste pour vous raconter quand même un peu le bousin, comme on dit hein, chez Groland. C'est la première pièce hein, de Wajdi Mouawad, qu'il a écrite à 23 ans. Hein, et puis, il ne l'avait jamais montée, en fait. Hein, d'accord. Et donc là, en fait, des années plus tard, il se dit, bon, c'est l'occasion de balancer ça. Donc, on se retrouve, en gros, donc c'est en libanais. Hein, donc la pièce originale était écrite en français parce que Monsieur Mouawad n'écrit pas le libanais, et donc là il a pu l'interpréter, la réaliser en libanais, donc c'est assez important pour lui, avec des acteurs libanais. Et on se retrouve en fait dans l'appartement, dans la maison de Jean, donc au Liban, pendant la guerre. Et on se retrouve dans ces querelles de famille, au milieu des tirs, au milieu de l'orage, au milieu du délire. On ne peut pas passer devant la fenêtre sans se faire tirer dessus. On est obligé d'aller dans la cuisine à quatre pattes. Enfin, on retrouve vraiment, finalement, ce que connaît bien Camilla, le monde méditerranéen, quoi, hein. C'est que ça crie. Enfin, bon, y a toutes les idées un peu là-dessus. Ça pourrait être une famille italienne un petit peu.
Oui, 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 complètement, oui. Complètement.
Bon, et donc bon, mais ça crie vraiment beaucoup, beaucoup, et ça se répète beaucoup, beaucoup. Donc il y a donc il y a les deux parents, il y a le fils qui se répète énormément, mais peut-être au bout d'un moment on se demande même s'il est pas un peu léger. Mais bon, après bon, certains diront, je ne sais pas quoi dire, hein, mais il est un peu dingo, hein, quand même. Hein. Et il parle avec sa sœur, qui bon, il y a quand même journée de noces, hein, donc c'est sa sœur qui va se marier. Et sa sœur, en fait, qui est narcoleptique. Donc, bon, il y a cette sortie du la narcolepsie, c'est quand même l'espèce de petit miracle au milieu de la guerre, parce que tu peux dormir et pas entendre ce qui se passe. Et le tout est chapeauté par un autre récit en parallèle. C'est le récit de l'auteur, donc Mouawad lui-même, qui était exilé, enfin qui s'est exilé au Canada. Et en fait, qui n'a jamais vraiment vécu la guerre. Enfin, si, 3 ans, il raconte, mais qu'il n'a pas vraiment connu, il le dit. Il sait. Donc en fait, il veut bien dire que ce qu'il est en train de raconter, bah, il est pas, enfin, il veut pas se montrer, avoir un manque de légitimité, quoi, ou trahir, ou enfin voilà. Donc il inscrit ça dans un récit. Et bon, au total, il y a quand même, bon, il y a le mariage n'arrive jamais. C'est une espèce de fable, mais j'ai pas du tout réussi à rentrer dedans. Mais même la mort des personnages, je me suis tellement peu attaché à eux ou dans le discours, que je reste un peu désarmé quand il décède. Alors Camilla me regarde parce qu'elle me dit mais c'est à moi de dire ça. Mais tu as tout à fait raison.
Tu m'avais dit que tu avais bien aimé.
Non, mais oui. J'ai bien aimé. Après, en y repensant, j'ai bien aimé. Mais en tous les cas, quand même, sur le moment, j'avais quand même des tout petits doutes. Mais en fait, là, en reparlant, bon, c'est même des gros doutes. Mais je ne sais pas en fait vraiment ce qui se dit dans ce truc-là. Il aurait fallu peut-être une intervention de Thomas là-dessus.
Je pense
que toi, tu aurais réussi à créer un espèce
à décortiquer.
D'élan. Non, mais pas, oui. Même pas décortiquer. Parler d'autre chose, partir et dire, oui. Finalement ça parle de. Enfin, tu vois.
Il est assez peu probable que Thomas cherche à sauver Wajdi Mouawad quand même. Hein.
Mais toi, t'en as pensé quoi on peut, oui.
Bah écoute, moi je trouvais que c'était pas mal parce qu'effectivement pendant 2 heures, on est complètement plongé dans des bombardements. Donc effectivement, je pense que ça fait réfléchir à ce que ça veut dire vivre sous les bombes, vu que les mondes politiques n'est fait que nous parler des guerres à droite à gauche, tout ça. Donc je pense que c'est quand même bien de voir ce que ça peut faire, la violence que ça peut, les effets délétères sur les individus. Et donc effectivement, dans cette famille, ils sont tous fous, complètement fous. On attend donc ces fiancés qui n'existent pas en réalité. Donc moi j'ai trouvé que cette histoire d'attente, effectivement, ça m'a profondément ennuyée parce qu'on attend pendant 2 heures, alors qu'on sait que les fiancés n'existent pas. Donc ça rappelle un peu Godot qu'on attend, oui, mais qui n'arrive pas.
Tout le monde est obligé de dire Godot dès que quelqu'un attend.
Mais après, après aussi, les personnages, le problème pour moi, c'était surtout ces personnages qu'on voit, auxquels on ne s'attache pas, parce qu'ils ne font qu'effectivement crier, qui répéter les mêmes choses. Mais effectivement, c'est vrai, ça rappelle un peu ces dynamiques des familles complètement toxiques. Donc ça fait aussi réfléchir à la famille.
Est-ce que tu as reconnu tes parents, toi? C'est ses parents qui s'engueulent tout le temps et puis ensuite qui se cachent sous la table pour faire des cochonneries.
Non, je n'ai pas reconnu mes parents. N'est pas comme ça de ma famille. Hein.
Je demande.
Attention. Alors, bon. Et donc, mais attention. Oui, donc ces personnages, pour moi, les problèmes, c'est vraiment ces personnages qui manquent complètement d'épaisseur, des façons dramatiques. Donc, on dirait, ils sont un peu à mi-chemin. Tu parlais tout à l'heure des Pulcinella, mais un peu de ces personnages des Goldoni, entre des personnages des Goldoni et des personnages des Beckett, mais qui n'ont pas des forces. Donc, vous voyez l'effet, c'est assez. C'était un peu difficile.
C'est jeune en fait.
Oui, tout à fait. Et donc je me questionne sur l'effet de pourquoi monter cette pièce 30 ans après.
Lui, il le dit, hein, tu sais, quand tu regardes ses interviews, il est très content d'avoir trouvé ses acteurs, parce qu'en fait c'était après les attentats en Israël. Et donc, en fait, ils avaient des avis radicalement opposés. Et il fait, en fait, l'occasion de monter cette pièce, ça a été quelque chose où, en fait, ils ont pu discuter énormément. Mais on ne peut pas dire que c'est un truc que tu puisses percevoir en voyant la scène. Mais pour lui, c'était vraiment très, très cool.
Donc, je veux dire,
au moins, lui, il est très content. Enfin, j'ai l'impression.
D'accord. Donc, pour moi, oui, vraiment, c'est important pour réfléchir à ce que ça veut dire vivre une guerre.
Parce que je crois qu'il n'avait pas pu la jouer au Liban, hein, d'après ce que j'avais lu.
Oui, il y avait eu des polémiques, mais au-delà de ça, je pense qu'effectivement, la pièce n'est pas... Voilà, j'étais pas... Ça faisait des années que je ne voyais pas une pièce de Mouawad, mais bon, là, j'étais pas du tout convaincue. Mais bref, vous avez le temps de vous faire votre avis, parce que ça joue jusqu'au 22 juin, au Théâtre de la Colline. Et on termine ce soir avec une chronique de Thomas sur donc, les rencontres internationales de Seine-Saint-Denis, et en particulier sur... Dança Fragile de Renato Cruz, un chorégraphe brésilien. On t'écoute. Tu l'as vu le 15 mai, vous ne pourrez pas la revoir.
Mais non, vous ne pourrez pas la revoir. Peut-être. Mais en fait, c'est vraiment l'occasion de parler du festival, oui. Qu'est les rencontres chorégraphiques. C'est vraiment. D'abord, c'est plein de lieux à découvrir, oui. Et c'est plein de travaux à découvrir, de chorégraphes à découvrir. Et ça brasse dans tous les sens. C'est-à-dire que c'est vraiment du hip-hop jusqu'à la danse contemporaine dans tous les sens. Quoi. Donc c'était vraiment. Je pense que c'est très important. Donc moi, je vais vous parler de Renato Cruz, mais effectivement, je pense que l'occasion, c'est aller voir sur le site des rencontres chorégraphiques de Seine-Saint-Denis, de façon à regarder le programme. Il y a forcément quelque chose qui se passe à côté de chez vous. C'est vraiment l'occasion d'y aller. Donc, Dança Fragile de Renato Cruz aurait pu rester une performance fulgurante de 10 minutes créée pour danse élargie. 10 minutes, peut-être que ça suffisait. Alors pourquoi les tirer à 45? Pour répondre aux standards, pour entrer dans le moule du spectacle vendable? On pourrait le croire, mais ce soupçon devient chez Renato Cruz... Allez, je m'amuse, une ruse. Bon, à l'heure, quoi. Car cette extension, cette répétition, cette durée étirée relève d'un choix, celui de la résistance. La musique, unique, obsédante, ne change pas durant toutes les 45 minutes. Elle use, sature, revient, elle ne meuble pas, elle travaille. Refus de l'effet, de la variation décorative. Elle devient un mur sonore contre lequel la danse cogne. C'est un refus du spectaculaire, une friction, un pied de nez à l'exigence de performance fluide et commerciale. La boucle comme stratégie de lutte contre l'uniformisation, la norme, la marchandisation des corps, parce que c'est tout ça dont parle la pièce. 5 danseurs, 5 trajectoires, 5 styles. Ils évoluent dans des couloirs lumineux, rigoureusement séparés comme dans des rails. Chacun interprète une partition commune mais à sa façon. La synchronisation n'est jamais parfaite. Elle vacille, miroir brisé d'une société qui voudrait tout lisser. Cette faille est un manifeste. Elle dit « Vous attendez du show, voici la fracture. Vous cherchez l'excellence, voici l'usure. Ici, pas de virtuosité complaisante. Cruz interroge les stéréotypes de genre, la mise en scène des identités queer, la fétichisation. Et parfois, il frôle le malentendu, mais c'est pour mieux tendre un miroir critique au regard qui regarde. Car le spectateur n'est pas épargné. Ce qu'il voit l'implique, le dérange, le questionne. Les corps exposés ne se contentent pas de séduire, ils accusent. Ils montrent la contrainte, le désir, la surveillance, la joie aussi. Chez Cruz, le corps danse avec lucidité. Et il fallait sans doute un chorégraphe brésilien pour dire cela. Un brésilien pour évoquer avec grâce et rage la précarité queer, la surveillance, les reculs politiques, mais aussi un brésilien pour injecter dans cette dénonciation la lumière, la sensualité, le mouvement qui résiste au silence. Dança Fragile est aussi le théâtre d'un choc culturel, là où les battles de danse suscitent les cris, les encouragements. Ici, le spectateur reste figé, sage. Il faut le secouer pour qu'il se manifeste. Comme si ce spectacle n'était pas à sa place, ici, sur nos scènes. Mais c'est précisément parce qu'il déplace, qu'il bouscule. Il nous sort de notre posture docile de consommateur passif. Il nous réveille. Même les applaudissements lancés en musique, presque comme une kermesse, dérangent l'étiquette. Mais ce dérangement est salutaire. Et si cette danse est fragile, ce n'est pas qu'elle flanche, c'est qu'elle ne veut pas se figer. Elle tremble encore, et c'est ce tremblement qui nous tient vivants. Autant vous dire que j'ai plutôt aimé.
Merci Thomas pour cette chronique. Donc, on termine ce soir avec un coup de cœur d'Alice et Julien.
Ouais, moi j'ai un petit coup de cœur. Alors, c'est une compagnie dont j'ai déjà parlé beaucoup, que j'aime beaucoup, c'est Moonstone. C'est Macbeth.
Sortez-moi de ce cauchemar. Ah non, sortez-moi de là.
C'était terrible. Moi, je pense qu'il faut vraiment y aller. Alors, c'est... Tout ce que fait le Moonstrom, ça va dans l'excès, ça va très fort.
On
ça
est en plein lobbying,
ça...
s'il vous plaît.
Mais oui, oui, c'est vraiment un pouvoir qui s'exprime, qui est là, qui est. Ouais, ça, c'est très fort. Donc vous pourrez le voir soit à Lille cette semaine, Ça vaut le coup d'aller à Lille. Hein. Soit à Malakoff en novembre, soit au rond-point, toujours en novembre-décembre.
Quelles franchement, sont ces créatures si flétries et si folles dans leur accoutrement qui ne ressemblent pas aux habitants de la Terre et cependant s'y trouvent.
Hamlet, bah en même temps, bon.
Merci beaucoup Julien. Donc oui, effectivement, on a le temps, on pourra les inviter. Mmh. Julien, tu pourras les inviter.
Alors, on les en alors... a déjà reçus, on va peut-être... varier.
Alors, donc ce soir, on vous a également parlé du festival BIAM, en particulier du spectacle Loco de Natasha Belova et Tita Iacobelli, joué du 16 au 18 mai au Théâtre Montfort et les 22 mai au Théâtre Antoine Vitesse, dans le cadre du festival BIAM. De l'Hôtel du Libre-Échange, une mise en scène de Stanislas Nord et à l'Odéon jusqu'au 13 juin, de la Journée des Noces chez les Cro-Magnon au Théâtre de la Colline jusqu'au 22 juin. Un invité, nous avons reçu Sarah Gerber pour parler d'Ophélie Orchan qui va jouer là bientôt, donc 15 minutes au Théâtre de Belleville et jusqu'au 27 mai. Cette émission a été préparée par Camilla Pizzichil avec la complicité de Thomas Adam Garnin, Alice Valla, Julien Hont, Hélène Belbert et réalisée par Guigui. On vous donne rendez-vous à lundi 16 juin à 20h sur Radio Campus Paris. Bonne soirée à toutes et à tous. Bisous.
Bisous. Bonne soirée.
Ciao.